Bienvenue sur le podcast de Moodstep. Cette semaine, nous allons nous intéresser à comment trouver sa place ou comment trouver une place qui nous correspond, qui permet de s'épanouir, avec Borna qui a créé Pixis. Je suis Johanna Kellen, votre hôte pour ce podcast et opératrice de Talentoscope, mais rien ne sert d'aller voir talentoscope.fr car j'ai cassé le site internet. Donc pour en savoir un peu plus pour ce jeu qui se fait dans les séminaires d'entreprise, il suffit d'aller sur mon blog Moodstep, moodstep.com et il y a un onglet Talentoscope en attendant que j'arrive à remettre en place mon site internet. Retrouvons tout de suite Borna. Bonjour Borna.
Bonjour.
Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler de comment trouver notre voie puisque tu as créé une société qui s'appelle Pixis. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens, parce que tu as un joli accent en plus.
Bien sûr, merci beaucoup. Donc je suis donc Borna Skonjamil, j'ai 30 ans. Et je suis italo-croate, pour la précision, donc d'où l'accent. Je suis napolitain du côté de mon père et de Zagreb du côté de ma mère. Cela fait 9 ans que j'habite en France désormais. Et je suis à la tête de Pixis depuis janvier 2016. Et j'ai un parcours plutôt atypique d'un point de vue des études, où, dans la mesure où mon rêve depuis que j'étais enfant était de devenir archéologue, voire d'abord paléontologue et puis archéologue, et rien ne disait qu'un jour ou l'autre je puisse tomber dans l'entrepreneuriat et de monter ma boîte.
Est-ce que tu peux nous expliquer donc ce que fait Pixis ?
Oui, tout à fait. Alors, Pixis, c'est une plateforme d'orientation en ligne qui veut aider les jeunes collégiens, les lycéens et les étudiants dans leur parcours d'orientation, les aider à réfléchir sur eux-mêmes, sur leurs valeurs, leurs motivations, et leur permettre d'un côté d'accéder à une information de qualité sur les métiers et les formations d'avenir, et de l'autre, fournir un accompagnement personnalisé, au plus près justement des ambitions, des aptitudes, des talents, des intérêts des jeunes. Et donc on le fait avec deux services qui sont l'un qu'on appelait la Galaxie des métiers, qui est un moteur de recherche interactif qui permet d'explorer de manière simple, interactive et ludique plusieurs centaines de métiers formation, et de l'autre, c'est un service que nous venons de lancer pour cette rentrée 2018, qui est un assistant conversationnel qu'on appelait Pixis, et qui intègre le premier bilan d'orientation complet sur smartphone.
Ok. Ce qui m'intéresse en fait, et pourquoi je t'ai contacté, c'est qu'on soit jeune, puisque toi tu t'adresses à un public qui est assez jeune, mais en fin de compte c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de nos carrières, qu'on retrouve chez des adultes, qu'on retrouve même chez des retraités, c'est comment trouver sa voie. Et donc en créant Pixis, quelque part, toi, tu t'as approfondi ce sujet et tu t'es penché là-dessus. Quelles sont les questions qu'il faut se poser pour savoir où aller, quoi ?
Bien sûr. Évidemment, l'orientation, c'est un processus qui dure toute la vie. Depuis qu'on est enfant, jusqu'à la retraite, mais même au-delà, je dirais, parce que c'est des choix non seulement professionnels, mais des choix aussi personnels, d'épanouissement personnel et professionnel. Donc c'est un process de constante remise en question, ou du moins de réflexion, d'un instant T de notre propre vie, qui est amené forcément à changer. Que vous soyez enfant et que vous rêviez d'un métier qui vous fait justement briller les yeux, à une phase professionnelle dans laquelle vous sentez que vous êtes un peu coincé dans votre boulot, dans votre boîte, et que vous aimeriez changer. Et c'est toute la difficulté, mais tout aussi la beauté de l'orientation est là. C'est-à-dire qu'il y a des questions, il y a des méthodologies, des méthodes, des techniques qui permettent de pouvoir d'abord se poser des questions soi-même. C'est une compétence d'apprendre à s'orienter qui sera de plus en plus importante d'acquérir et de peaufiner dans les années à venir, au vu des grosses transformations sociétales et dans le monde de l'emploi. Mais donc, la méthodologie que nous, on peut appliquer et qu'on cherche, nous, à appliquer chez Pixis, chez les jeunes, elle peut s'appliquer tout aussi sur un public plus ou moins adulte.
Alors comment on s'y prend? Parce que tu viens de le dire, il y a une galaxie de techniques. J'ai l'impression que même quand on fait d'innombrables stages, c'est comme des petites pièces qui parfois s'emboîtent pas vraiment. Comment on donne de la cohérence à cette recherche? Par quoi on commence?
Bah, c'est-à-dire qu'on peut commencer par plusieurs portes d'entrée. Il n'y a pas forcément une porte d'entrée privilégiée, même si on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse le plus d'un point de vue, est-ce qu'il y a un secteur professionnel qui m'intéresse? Est-ce que j'ai un centre d'intérêt plus développé qu'un autre? Ou est-ce que je commence à réfléchir sur ma propre personnalité, à mon propre espace intérieur? Est-ce que je pars de valeurs, par exemple, que je défends? Et donc, toutes ces questions-là définissent finalement la panoplie des paramètres, des facteurs qui vont vous amener à finalement définir ton projet de vie, que ce soit donc d'études, dans la mesure où on sera en formation tout au long de la vie. Donc, comment acquérir ses compétences et connaissances tout au long de notre parcours. Et donc, après, trouver de l'épanouissement de manière personnelle et professionnelle. Donc, si tu veux, il y a un très bon tableau qui peut résumer cette définition de trouver sa voie, donc, qui est le concept de Ikigai, qui est un concept japonais et qui justement se développe sur quatre axes, en fait, et qui dit très bien, en fait, qui pose quatre questions et dire, en fait, qu'est-ce que j'aime, en quoi je suis bon, en quoi je pourrais être utile pour la société et avec quoi je pourrais quand même gagner des ressources financières qui me permettraient de combler certains de mes besoins, bien sûr, physiques. Nous, on a défini chez Pixis un axe qui part d'une étude approfondie de sa personnalité, des centres d'intérêt, des sources de valeur, des motivations, des talents et compétences, pour après aboutir à une partie valoriale qui pour nous est fondamentale. C'est-à-dire que on peut pas, ou du moins si on en a le choix, ça serait bien que on soit redirigé sur des métiers qui ont du sens pour nous, qui nous parlent et qui à cet instant T de notre vie justement nous épanouissent et nous permettent de bien avancer. Mais ce n'est pas figé, ça peut changer plus ou moins rapidement. Et donc il faut toujours faire un peu il faut bien jauger entre l'esprit de réalisme vis-à-vis de la situation personnelle que chacun peut vivre et donc dans un contexte professionnel et cette partie qui nous amène à toujours chercher un peu le changement ou du moins à nous faire sentir bien au quotidien.
Et qu'est-ce que vous faites pour étudier la personnalité? C'est quoi? C'est des questionnaires? Ça repose sur quoi?
Oui, alors nous avons développé, nous avons plusieurs outils qui sont intégrés dans un bilan d'orientation complet, qui sont justement un test des préférences naturelles, qui est dérivé du célèbre MBTI, qui est le test un peu le plus reconnu aujourd'hui d'un point de vue de la personnalité, et que nous avons aussi grâce à une de nos partenaires et scientifiques, Pascal Marmara, on a repris et adapté, si tu veux, à un public jeune et qui permet donc de définir les 16 traits de personnalité, voire des préférences naturelles. Ensuite, on a pris le test des intelligences multiples, Donc aujourd'hui, nous avons 8 intelligences multiples qui permettent de définir non pas si on est intelligent et combien on est intelligent, mais comment on est intelligent. Et chaque intelligence, que ce soit intrapersonnelle, interpersonnelle, kinesthésique, logique ou mathématique, linguistique, etc., ça permet de définir déjà des talents et des compétences qui peuvent être innées dans notre raison, dans notre façon de raisonner, dans notre façon de nous comporter. Et puis, on a des questionnaires pédagogiques. On a des questionnaires pédagogiques qui tournent autour des centres mentaux d'une personne, des valeurs, des motivations, et qui permettent, en fait, avec des allers-retours plutôt rapides, intenses, parfois avec des temps d'arrêt, des pauses, en fait, de définir au rythme de chacun, de chacune, la possibilité de définir une photographie, d'avoir cette photographie de l'état T, du temps T de la personne, et donc de partir ensuite, parce que ce n'est qu'une première étape, celle de se questionner, de partir à une étape plus pratique, et donc de pouvoir explorer des secteurs professionnels, des métiers, et donc, comment dire, traduire cela avec un plan d'études, un plan de formation qui puisse te permettre d'acquérir ces compétences et connaissances qui te sont nécessaires, non pas pour exercer un métier, mais pour exercer un rôle, une fonction au sein d'une organisation, que ce soit une entreprise, une association ou toute autre organisation, disons, de la société civile.
Personnellement, j'ai fait le MBTI il y a à peu près 10 ans. À l'époque, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai jamais exploité les résultats. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas quel est mon profil. La difficulté, je trouve, d'en trouver sa voie, c'est qu'on peut faire plein de choses, connaître ses valeurs, savoir si on est plutôt introverti, extraverti, faire une batterie de tests. Mais comment on donne du sens? Comment on les articule les uns avec les autres?
Il n'y a pas de formule magique, à mon avis, dans laquelle on peut se dire, effectivement, je passe un test, je trouve avec d'un claque des doigts, je trouve ma voix, parce que c'est un test qui me le dit. Effectivement, la chose qui est importante, c'est vraiment développer une compétence. C'est comme quand on demande à des personnes dans une fiche de poste, quelles sont tes compétences? Eh bien, en fait, je pense que la compétence à s'orienter, c'est un facteur clé qui va permettre à tout un chacun de trouver sa voie. Je l'explicite encore mieux. Il y a effectivement une première phase d'introspection qui est très forte et qui est celle, je disais, de l'ikigai. Et un soi, ça va au-delà de tout test ou de études psychométriques.
L'ikigai, c'est la rencontre de ces quatre cercles, ce que j'aime,
Tout à fait.
là où je suis bon, là où c'est utile et où on est prêt à me payer.
Tout à fait.
Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on trouve vraiment ce point de rassemblement de ces quatre éléments?
Je pense que si il était facile de trouver son ikigai, peut-être on aurait trouvé cette pierre philosophale qui nous amènerait dans un état de bonheur et de d'épanouissement continu et éternel. Moi, je ne crois pas justement à ça. Si tu veux, on peut partir de mon exemple, parce que ça risque d'être presque une lubie de promettre à des personnes. Et d'ailleurs, c'est une très grosse responsabilité, parce que dans l'orientation, que cela soit scolaire ou professionnel, je ne dis pas qu'on joue, mais on a affaire avec l'intimité profonde des gens. Donc, dans cette responsabilité, il faut partir d'un message clair qui, à mon avis, est celui de dire l'épanouissement, que ce soit personnel ou professionnel, existe lorsqu'il y a certains paramètres qui sont réunis. Ces paramètres dépendent, parce qu'on n'est pas des êtres étanches, on est des êtres qui ont toujours affaire avec des personnes, on est toujours amené à rencontrer de nouveaux gens, à évoluer dans des environnements professionnels différents. Et donc, Pour te donner un exemple concret qui est le mien, et donc on dit souvent faites rêver votre vie et vivez vos rêves. Ça, c'est une des valeurs que nous incarnons chez Pixis. Et pour te donner une idée, bah, moi, mon rêve quand j'étais enfant, c'était d'être archéologue. Et je peux te dire que pendant 8 ans jusqu'à mon doctorat, j'étais la personne la plus heureuse au monde. Et je peux te le dire parce que je l'ai vécu. Je voulais être égyptologue, je voulais aller étudier en Égypte, faire des fouilles. J'étais fasciné par le Moyen-Orient. C'est pour ça aussi que je suis arrivé en France, parce que je voulais apprendre le français grâce à Champollion et à la pierre de Rosette. Et si tu veux, toutes ces sources de motivation, elles sont venues grâce à cette vocation que je sentais en moi de vouloir devenir archéologue. Et comment j'ai découvert au fur et à mesure, donc qu'est-ce qu'était l'archéologie? Ben, c'était par des expériences pratiques. Donc de toute manière, je conseillerais à des personnes qui soit doivent choisir un parcours d'études en étant encore élèves ou étudiants, voire des personnes qui veulent se reconvertir parce qu'elles sentent qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui cloche, qui nous fait sentir pas trop à notre place en ce moment, eh bien, il faut savoir tester, il faut savoir chercher à comment dire, sortir de cette bulle d'introspection et justement de passer à l'action et de mettre en pratique. Si tu veux, c'est pour ça parce que je n'avais pas terminé mon déroulement de la méthodologie, mais la partie introspection, ce n'est qu'une première brique. Et donc, moi personnellement, je peux te dire que ça m'a pris beaucoup de temps, presque bah, 8 ans de mes études, pour me rendre compte que finalement, le monde de l'académie, de la recherche, de l'université, ne me convenait pas. Et que même si mon rêve d'enfant s'était réalisé, j'avais un gros malaise, parce que je me suis dit, justement, Borna, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tu es arrivé à l'aboutissement de tous tes rêves. Tu es presque égyptologue, parce que dans le monde universitaire, si tu n'as pas encore de doctorat, tu ne veux pas te définir égyptologue tout court. Et bon, autant de dire parce que finalement, j'ai plus terminé mon doctorat, donc j'ai abandonné l'université. Mais pour te dire qu'au bout d'un moment, tu arrives à un état psychophysique qui te dit, te parle dans ta tête, dans ton corps, et te dit, je veux changer. Et moi, ça m'a pris 3 ans pour chercher ma voie. Et encore une fois, c'était beaucoup de questions personnelles, beaucoup de tests, beaucoup d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il faut, je me suis rapproché de l'entrepreneuriat par une personne qui m'avait introduit dans des meet-up en 2012 à Paris, qui parlait des startups, de l'innovation. Et donc, je me disais, bah, OK, c'est intéressant. Donc, j'étais curieux, j'étais ouvert à sortir un peu de ma bulle, de ma zone de confort. Et si tu veux, c'est vraiment un enchaînement d'événements, de gens que j'ai rencontrés, aussi de galères, parce que pendant un certain moment, bah, je peux te dire la vérité, avec le peu que je pouvais gagner en étant doctorant contractuel, bon, ça ne te permet pas vraiment voilà, de faire beaucoup d'autres choses. Donc, c'était plutôt difficile. Et après, c'est pour ça que je te dis, moi, c'est saisir les opportunités qui arrivent. Vraiment avoir à être cette proactivité. Moi, je crois énormément dans ce qu'on appelle la sérendipité. C'est que provoquer sa chance, aller saisir les opportunités, c'est créer c'est en fait mettre sous tes pieds les briques qui vont construire ta nouvelle voie, si tu veux. Et ça vaut vraiment pour tout âge. Donc, moi, j'ai rencontré une personne qui m'avait dit, tiens, Borna, je vois que tu as une idée de projet, de start-up, tu devrais vraiment postuler au French Tech Ticket, qui était une compétition de start-up pour entrepreneurs étrangers qui voulaient s'installer en France. Au passage, moi, j'étais déjà en France, mais en étant italien et mon cofondateur, il est franco-libanais, on était éligible à cette compétition. Et en fait, on a postulé, on a attendu 6 mois et on était sélectionné. Et donc, en janvier 2016, on était parachuté. En fait, voilà, là, vous pouvez. On a reçu un ticket de financement pour démarrer. Et là, devant moi, s'ouvrait le dilemme de la vie. Parce que j'ai dit, OK, Borna, qu'est-ce que tu fais? Tu as la chance de jeter, entre guillemets, à la poubelle 8 années d'études. En égyptologie et mettre un peu tourner un peu la page sur ta vie précédente et commencer un nouveau parcours pour lequel t'as pas de formation, t'as pas de diplôme, t'as aucune connaissance certifiée dans ce domaine. Bon, et je peux te garantir que ça m'a pris du temps. Donc, du temps pour faire le deuil, parce que la décision que j'ai prise, c'est que la vie est la mienne et que malgré beaucoup de pression pour que je reste dans le milieu académique, finalement, je me suis dit non, je n'ai qu'une seule vie et donc savoir oser. Si là où je suis, c'est une séquence de tout ce que j'ai appris et de toutes les erreurs que j'ai faites, eh bien, et si aujourd'hui je peux me dire je suis épanoui à cet instant T, je suis droit dans mes bottes, fier de ce que j'ai fait, et je peux dire voilà, j'ai une mission qui est la mienne, je me lève le matin très très bien,
T'as
mais
une mission?
c'est une mission, comment dire, personnelle, mais qui se traduit après par rapport à ce que est la mission et la mission dans ce que nous faisons chez Pixis. C'est-à-dire que justement, moi, je veux lutter contre, ça me démange énormément, comment réduire les inégalités aujourd'hui dans la société au niveau d'un accès équitable à l'information sur les métiers et les formations. Aujourd'hui, je constate souvent, quand je vais faire des ateliers dans des collèges et lycées, parfois dans des quartiers défavorisés, combien il y a d'asymétrie et d'inégalité des jeunes qui ne connaissent pas, ne savent pas ce qui existe dans le monde. Et forcément, avec tous les biais sociaux, de genre, religieux, géographiques, eh bien, on se dit que en fait, l'égalité des chances n'est pas trop au rendez-vous. Et moi, j'ai décidé de me lancer aussi, parce que par une expérience personnelle, aussi quand j'étais chargé de cours à la Sorbonne, j'ai pu vivre dans ma vie aussi personnelle, tout en venant de Naples, qui est une ville pleine de paradoxes. Eh bien, je sais plus ou moins voilà ce que ça veut dire être d'un côté ou autre de la barrière. Et je le sens énormément, et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, du moins, me fait réveiller tous les matins avec la pêche et de la détermination.
J'aime bien continuer sur le fil de l'exemple que tu es en fait, parce que donc tu passes de l'archéologie à l'entrepreneuriat, dans le digital, sur aussi la formation, quoi, sur la compréhension de nos parcours. Et là, tu nous parles de ta mission, ce que je trouve, je t'avoue, j'aurais pas pensé que Pixis avait cette mission. Je la trouve vraiment très belle. Je viens de voir un petit documentaire sur un prof de Sciences Po qui va faire des cours oratoires et justement parle comme toi à l'instant de cette différence énorme de notre accent, de notre accès même à la langue.
Tout à fait.
Il y a des disparités qui sont vraiment énormes et en effet, ça nous ferme ou ça nous ouvre des portes. Donc la connaissance est importante. Si je prends ton exemple, déjà, comment tu as trouvé ta mission? Comment tu l'as identifiée? Parce que je veux dire, dans l'archéologie, le but n'était pas de réduire les différences socioculturelles.
Non, mais en fait, donc c'est très lié à la notion elle-même d'éducation. C'est-à-dire que j'ai eu l'extrême chance à la sortie du lycée de participer à un concours public dans ce qu'on appelle c'est en fait des écoles qui sont comment on les appelle School d'excellence. Ah oui, c'est des écoles d'excellence entre guillemets sur le modèle de l'ENS française qui en Italie se traduisent par des concours au sein de quelques universités en Italie. Et moi, en fait, j'avais passé ce concours pour intégrer cette école qui s'appelle ISUFI. C'est l'Institut de la formation pluridisciplinaire, si je traduisais littéralement. Et c'est en fait ce concours-là que j'ai eu qui m'a ouvert en fait les portes de. Et donc là, avec forcément tous les sacrifices que ça donnait, parce que si tu voulais rester pendant 3 ans dans cet institut, il fallait donc, c'était pratiquement une double licence, il fallait avoir des notes avec une moyenne très haute, il fallait vraiment pas mal bosser. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, Borna, tu as une chance inouïe de pouvoir étudier, de pouvoir t'épanouir par les études et donc de te dire, tiens, il n'y a pas beaucoup de monde qui a la chance de pouvoir faire ce que tu fais déjà. Et je me suis dit, aussi par les personnes, parce que j'avais la possibilité d'être avec un contact direct avec des étudiants en physique, en maths, en philosophie, en lettres, en ingénierie. C'était vraiment énorme cette expérience que j'ai faite à Lecce, dans les Pouilles. Et ça m'a vraiment donné un aperçu de combien en fait c'est important, donc combien l'éducation est importante pour aussi l'émancipation d'une personne. Et là, ce qui était bien, c'était qu'on était des gens de plein de milieux socioculturels différents. Et c'était vraiment une forte. C'est un peu une des clés de lecture que je peux te donner au niveau de la mission que je me donne aujourd'hui. Disons personnellement et de manière professionnelle. Je peux te dire aussi, quand j'étais donc archéologue, je participais à des missions en Égypte. Et en fait, donc j'étais chargé de responsable d'une partie du chantier. Et en fait, avec moi, on avait plusieurs ouvriers spécialisés égyptiens. Donc c'était des locaux. Souvent, on était dans des sites qui côtoyaient des villages. Donc, on n'était pas du tout dans le centre du Caire, on était parfois dans des endroits plutôt reculés. Et en fait, quand on travaillait avec ces gens, notamment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, énormément de jeunes qui avaient comment dire, avec lesquels j'ai eu la possibilité d'avoir des rapports d'amitié très, très forts et qui me témoignaient, en fait, de combien parfois on a, nous, la chance d'avoir, que ce soit en France, en Italie, un système éducatif qui te permet d'aller très loin dans ta formation, et que dans des pays dans lesquels des personnes avec des talents énormes, avec lesquels on pouvait travailler en confiance, et de vrais managers, hein, des personnes qui managaient des équipes de 15 à 20 personnes et qui étaient de vrais, comment on pourrait dire, de vrais cadres aujourd'hui qui pourraient tranquillement. Comment dire, diriger des entreprises ici, mais sauf que comme ils sont nés dans un endroit différent que le nôtre, étaient paysans et qui, de manière ponctuelle, lorsque nous, avec la mission archéologique, débarquions dans leur village, on leur demandait de devenir nos collaborateurs lors des fouilles. Et ça m'a toujours, toujours très marqué. Vraiment, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et je me suis dit. Waouh, merde, combien l'éducation est importante et comment en fait ça crée des fossés énormes, que ce soit en France, chez nous, dans un pays qui, selon l'OCDE, a quand même un des systèmes les plus inégalitaires, malgré, on puisse dire, de l'excellence académique de beaucoup d'écoles et d'universités, mais que l'ascenseur social en France, c'est parmi les plus faibles. Et donc, que cela vaille pour la France ou d'autres pays en voie de développement, peut-être c'est encore plus saisissant.
Là, tu parles d'éducation. Est-ce que c'est une des clés essentielles pour trouver ou accéder à sa voie?
comment dire, je peux te dire aussi quelque chose, c'est que ce n'est que par l'expérience pratique finalement que l'on apprend ce qu'on aime ou on n'aime pas. On apprend en quoi on est bon ou pas bon. On peut le dire, le déclarer, mais on le découvre et on le sait quand on fait des choses et on voit, ok, là, ça, juste, voilà, j'aime pas du tout. Ou des choses, tiens, ça me fait vraiment du bien. Et aujourd'hui, c'est un vrai shift qui s'applique dans le monde moderne. L'importance du diplôme, et c'est presque un paradoxe parce que nous aujourd'hui on cherche à intégrer des milliers de formations, donc évidemment diplômantes, certifiantes, qui donnent la clé de lecture d'une personne et dire voilà, cette personne est certifiée, peut faire ça parce que c'est un diplôme d'université qui le certifie. Je peux te dire que j'ai eu affaire avec plusieurs stagiaires que j'ai eu chez moi dans mon entreprise. Il y en a certains qui venaient de grandes écoles d'ingénierie, qui en cinquième année d'ingénierie, eh bien, je peux te dire, je m'attendais à un niveau beaucoup plus élevé et que parce que ils étaient en cinquième année d'école d'ingénieur informatique. Et alors que si aujourd'hui j'ai une étudiante de l'école 42 de Xavier Niel et qui est en réorientation et qui avant n'était pas du tout dans l'informatique mais qui aujourd'hui a la pêche et qui apprend énormément chaque jour avec la confiance que je peux lui donner, et bien cette personne a fait deux fois plus de choses que la personne qui avait son statut d'école d'ingénieur informatique. Donc voilà, il faut pas généraliser. Et il ne faut pas tomber dans la particularité, mais je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est le vrai paradoxe de la société, c'est que pour trouver sa voie, on a tellement d'outils et de possibilités. Et c'est ça, en fait, ce qui parfois nous fait peur, parce que dans cette immensité, on se sent perdu. Et quand on perdu, et quand on voit que dans cette ère de la post-réalité, où beaucoup d'idéologies, de valeurs du passé ont disparu, comment on se repère? Et moi, je veux dire personnellement, ce n'est qu'une clé de lecture, mais est-ce qu'on peut partir de valeurs et de comment chacune, donc en revenant sur le concept de l'ikigai, moi je pense que j'aime beaucoup la partie en quoi je pourrais être utile, et je trouve que c'est quelque chose sur laquelle ça peut vous donner. Par exemple, même si vous êtes à un poste que vous ne pouvez pas quitter parce que forcément vous avez une nécessité financière, eh bien, trouvez aussi le temps dans une association, dans d'autres activités qui peuvent vous permettre comment dirais-je, de mettre en pratique certaines choses que vous aimeriez faire et que pour lesquelles, pour l'instant, vous n'avez pas encore la possibilité de faire ce saut. Tu vois ce que je veux dire?
Complètement. Ouais, trouver sa voie dans cette époque où tout évolue à une vitesse complètement ahurissante, c'est pas évident. Je suppose qu'il faut apprendre à s'adapter. D'ailleurs, tu l'as dit, se former à savoir s'orienter. On peut peut-être se demander légitimement quel type de formation doit-on suivre aujourd'hui, sachant que beaucoup des métiers dans 10 ans n'existent pas encore.
Absolument, c'est tout à fait ça. Il y a une très belle vague désormais sur la notion d'apprendre à apprendre, sur la compétence de savoir apprendre à apprendre, qui est portée d'ailleurs par une personne vraiment que j'admire énormément, qui est François Taddei. Le directeur du CRI, qui d'ailleurs a sorti un livre qui est très beau, hein. Je le conseille énormément, c'est Apprendre au XXIe siècle, et qui justement dit, on peut pas se permettre de figer, mettre des personnes dans des cases et de respecter ces cases, alors que c'est un monde qui est tellement mouvant, et je pense que ça serait prétentieux de ma part ou de toute autre personne qui justement te donne sur un plateau d'argent, cette formule, la recette pour te dire, grâce à moi, tu vas trouver ta voie. Donc l'adaptabilité, oui, C'est un discours qui désormais se fait de plus en plus. Donc, je ne dis pas du tout, je dis des banalités, mais tout ce qui est les compétences comportementales et les compétences humaines, ainsi dites soft skills, seront de plus en plus importantes.
D'où l'intérêt d'écouter ce podcast puisqu'on parle beaucoup des soft skills. Pour conclure, il y a aussi toutes les peurs qu'on peut avoir, les carcans. Il faut aussi se débarrasser de toutes ces choses avant de pouvoir trouver sa voie.
Moi, si je peux te dire, j'ai aucune crainte à me confier, aucun problème à me confier, c'est que le changement, c'est difficile. J'ai eu une peur bleue à faire ce que j'ai fait parce que je me suis dit, merde, dans quoi je m'embarque? Je me suis dit, mais où est-ce que je vais? Et surtout avec. Tout en ayant réussi à convaincre mon père, qui, donc lui, il est médecin, mon grand-père, il était médecin et qui voulait que je continue à être médecin. Mon père qui disait, mais Borna, mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'archéologie, avec des vieilles pierres et qu'au bout d'un moment, au bout de 8 ans, il s'était presque convaincu de se dire, bah tiens, Borna, il va être archéologue, c'est génial, il est même bon, donc il aime bien ça. Et le jour où je lui dis, papa, en fait, tu sais, je fais toute autre chose, donc voilà. Et donc il a au risque de lui faire arriver un infarctus, mais c'était ça. Et la peur, ça permet d'éveiller certains sens. Ça te permet de vraiment aller sortir de cette zone de confort. Et je pense que c'est une des clés. Après, et vraiment. Ça, c'est mon point de vue presque philosophique. C'est que les opportunités font qu'on se les crée. Et c'est difficile, il faut tenter et il faut aller à la rencontre des gens.
Alors, je te propose de passer donc au questionnaire qui est commun à toutes les interviews avec la première question. J'aimerais que tu me racontes une histoire de quelque chose que tu aurais qui aurait pu être vu comme un échec, mais qui t'a beaucoup appris.
Bah, justement, je pense que un grand échec pour moi, ou du moins comment je le voyais à l'époque, c'était le fait de ne pas avoir réussi à terminer mon doctorat. Parce que la pression que j'avais de plusieurs côtés, un aspect aussi de. Comment dire, vouloir terminer un parcours, même si ça faisait quelques mois avant que je prenne ma décision définitive, ça me taraudait depuis plusieurs mois le fait de pouvoir quitter. Mais je me disais toujours, Borna, au moins finis ce parcours, certifie-le avec ta thèse et après passe à autre chose. Et le fait de ne pas l'avoir fait, voilà, ça a été. J'ai mis pas mal de temps avant de faire un peu le deuil de ça et de passer à autre chose et de voir ça comme une étape finalement de mon process de maturation. Mais à l'époque, c'était vraiment un gros échec pour moi.
Qu'est-ce que t'en as appris vraiment?
Bah, finalement, j'ai appris que. Tout échec te permet d'apprendre énormément et que finalement tu te dis d'un point de vue vraiment de la temporalité, un échec c'est un sur une si tu mets ta vie sur une ligne droite, bah, finalement ça reste quelque chose qui arrive à un certain moment et après ta vie continue. Et donc, non, mais c'est vrai, quand tu le regardes, si tu prends de la hauteur, tu te dis, bah, comme tout événement, bah, c'est quelque chose qui t'arrive, boum. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes et tu pleures ou tu avances et tu prends les enseignements de tout ce que, de toutes les erreurs ou de tous les malheurs qui ont pu t'arriver, parce que souvent, parfois, c'est subi ou pas, voilà, parfois les échecs sont mêlés à des situations sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de pouvoir d'action. Mais bon, je pense que chaque occasion est utile pour faire un état de la situation et de avancer sur de nouvelles bases.
C'est vrai que de faire le choix de quitter ou d'arrêter quelque chose qu'on a porté longtemps, quelque chose qui était si important, c'est étonnant comme ça peut aussi libérer, libérer et ouvrir une nouvelle voie. Et parfois, on s'entête dans un chemin juste parce qu'on y a investi énormément. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, eh bien, j'ose lâcher des choses dans lesquelles je me suis investie, non pas parce que je ne persévère pas, mais parce que j'ai besoin de mettre mon énergie ailleurs. J'entends l'enseignement sur les échecs et puis moi j'en vois un autre personnel, je me permets, d'habitude je fais pas ça, mais bon, qui est de aussi ne pas prendre ses décisions en fonction de forcément ce qu'on a investi, mais vraiment du moment où on se trouve.
C'est
À ce
ça.
moment-là, qu'est-ce qui est le plus juste, quoi?
Exactement. Exactement.
Deuxième question. Quelle technique ou outil t'a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Oui, alors c'est quelque chose qui culturellement est très, comment dire, très proche de la culture anglo-saxonne plutôt que de la culture latine, mais c'est le networking, voire le réseautage. Un des principes vraiment clés du networking, c'est que quand on va dans des événements qui nous intéressent, avec un objectif aussi de formation qui nous donne l'envie d'apprendre de nouvelles choses, c'est lorsqu'on est seul dans une salle d'avoir le courage d'aller à la rencontre de personnes que nous ne connaissons pas forcément, mais qui, avec le sourire, avec de la bienveillance, peuvent être tout à fait disponibles à vous aider. C'est ce qu'on appelle souvent, c'est un principe sociologique, c'est la force des liens faibles. Aujourd'hui, on se dit souvent que les personnes très proches à nous, de nous, donc nos parents, nos amis, nos cousins, ça c'est des liens forts. On dit souvent que c'est par les liens faibles, donc des personnes qui vous pouvez connaître au bout d'une conversation, c'est ces personnes-là qui peuvent vous ouvrir des portes, des opportunités jusque-là inconnues.
La question suivante est normalement, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager? Mais comme aujourd'hui, exceptionnellement, on n'a pas trop parlé du monde de l'entreprise, je me demandais quelle était la qualité principale à avoir pour trouver sa voie.
Oui, parce que si ça avait été pour le manager, ce qui est aussi le cas, pour moi, c'est l'empathie. L'empathie, pour moi, c'est quelque chose qui est très forte, qui est très important. Non, je pense qu'une qualité, pour savoir, c'est la curiosité. La curiosité, ah oui, là, il n'y a pas de doute, dans la mesure où il faut, je pense, avoir une envie énorme d'apprendre de nouvelles choses. On doit être vraiment capable de sortir des sentiers battus. Et je pense que la curiosité, c'est la première caractéristique qu'on doit avoir et qu'on doit entraîner pour éventuellement changer de chemin.
Ok. Et est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais nous conseiller à la lecture?
Moi, je pense que le livre qui m'a vraiment influencé et qui d'ailleurs, je pense qu'il est traduit en français, donc c'est intéressant. C'est un livre d'une personne qui s'appelle Tiziano Terzani. C'est un ancien journaliste correspondant qui a fait la guerre du Vietnam au Cambodge avec les Khmers rouges. Il était correspondant, oui, en Asie. Et il a eu un parcours de vie incroyable, je trouve ça impressionnant, et qui au bout de sa carrière, il a eu on lui a diagnostiqué un cancer, et en fait ça a été un bouleversement incroyable et qui l'a amené à un parcours de réflexion personnelle très très forte, d'introspection, et il a publié un livre, le titre du livre c'est « La fin et mon commencement ».
Comment, tu peux le dire en italien, ça va nous faire du bien, je
Oui,
pense.
la fine è il mio inizio. Et c'est donc l'histoire d'un père, donc Tiziano, qui parle à son fils, Folco, dans une. Donc, Tiziano qui est terminale, malade terminale, et qui est dans une qui vit dans une belle maison dans les montagnes de la Toscane et qui se confie à son fils avec lequel il avait un rapport pas vraiment pas trop facile et qui lui dit voilà dans tout son parcours de vie de l'enfance jusqu'à à ce stade de la vie et qui dit bah justement ma fin finalement est un nouveau commencement pour moi.
Attends, c'est un dialogue entre un père et son fils, et c'est tout le livre?
Oui.
Et ils en ont pas fait un film?
Ah, c'est possible.
J'ai vu un film que j'ai trouvé, mais beau, mais poétique, et c'était en Toscane, je
Ah,
crois que
bah c'est
c'était en
ça.
Toscane,
Ah, c'est ça.
et je suis... C'est ces films où juste un dialogue entre deux personnes peut vous tenir. Et j'ai été... bizarrement, je suis restée, comme on dit, scotchée devant ce film italien qui se passait en Italie, de juste une conversation entre un père et son fils. J'ai trouvé ça très très beau. Je me demande si c'est le même.
Et moi, je peux te dire que si c'est la fine et minute, c'est le livre qui a changé un peu ma vie. Il est sorti en 2018, donc j'avais 21 ans. Et c'est vraiment le livre qui m'a appris énormément sur l'éloge de la bienveillance, du temps long, de comment réfléchir en fait au futur par nos actions et des actions qui nous mènent parfois sur des chemins inconnus. Et sur l'importance de toujours prendre les choses avec un sourire. C'est quelque chose qui m'avait vraiment bouleversé dans ce livre. C'est donc le journaliste Tiziano qui était au Cambodge lors de la révolution des Khmers rouges et il était passé de la Thaïlande au Cambodge. Et, si j'ai une bonne mémoire géographique, et qui disait en fait, il avait été fait presque prisonnier par des Khmers rouges qui avaient des fusils à la main. Et Tiziano Terzani qui disait, quand il y a quelqu'un qui vous pointe un fusil, souriez lui, ça peut vous sauver la vie. Et ça m'a toujours bouleversé cette phrase, mais il y en a plein dans ce livre.
Écoute, je viens de faire une recherche et je te confirme que le film est bien La fine et il mio inizio.
Ah, bah
C'est le
parfait.
film que j'ai vu et ben, je t'invite à aller le découvrir parce que c'est un très beau film. En tout cas, j'ai trouvé qu'il était très beau.
D'accord, ça sera une belle redécouverte du livre parce que moi je ne connais que le livre. D'accord, très bien.
Et on va finir avec une citation.
Une citation qui est donc une citation latine qui est Audaces fortuna iuvat. Et en fait, c'est la traduction en français. C'est la chance aide ceux qui osent. Et moi, je la trouve très pertinente et que on peut la traduire de plusieurs manières, l'interpréter de plusieurs manières, mais dans l'acception latine, dans la signification latine, c'est fortuna, on peut le voir d'une manière un peu fataliste, comme la providence qui vient vers
Le
vous, le
destin.
destin, etc. Mais j'adore le audaces, donc traduit en français un peu les audacieux, littéralement.
Ça dit la chance sourit aux audacieux.
Exactement.
Merci beaucoup, Borna.
Merci à toi.
Aujourd'hui, quels sont tes rêves? Quels sont tes projets? Vers où vas-tu?
Waouh!
Ouais. Il y a des questions comme ça. Ah, c'est une abîme.
Non, mes projets, si tu veux, terre à terre, parce que c'est il faut voilà justement de se dire ok qui était le Borna il y a 10 ans et là où est-ce que j'en suis et donc je me dirais presque où est-ce que j'en serai dans 10 ans et donc je peux te dire que je sais pas ce que je serai dans 10 ans parce que mon rêve le plus fou ben peut-être il n'existe pas encore. Par contre, ce qui est la réalité et pour laquelle je vais donner tout de moi-même tant que je vais encore des forces et des énergies, c'est de porter mon projet entrepreneurial, vraiment de le chercher à mener à bien, Pixis, parce que je l'ai construit de zéro, de rien, et j'en suis plutôt fier. Et je pense que dans les 2, 3 années à venir, si tout se passe bien, je pourrais vraiment pouvoir dire tiens, j'ai de l'impact avec mon entreprise. Et si j'ai de l'impact, ça veut dire que finalement, la mission dont je te parlais, bah, elle est vraiment actée et pleinement comment dire, effective. Et donc, ce qui n'est pas forcément encore le cas, parce qu'on est encore une jeune entreprise. On a eu, certes, on a 30 000 visiteurs, utilisateurs uniques, mais le défi et les enjeux sont tellement grands que c'est un projet à long terme. Mais donc, déjà, savoir qu'on est prêt à tout pour arriver au bout de ce rêve-là, c'est déjà, je pense que c'est important de, comment dire, de se le mettre bien en tête pour dire, OK, ça c'est la direction, il y a la stratégie et il faut y aller.
Et j'ai un peu envie de changer ma question, c'est de quoi as-tu besoin aujourd'hui pour mener à bien ton projet? C'est quoi ton plus gros besoin aujourd'hui?
Oui, alors oui, mon plus grand besoin, c'est de réussir à rassembler davantage de gens, de personnes qui peuvent croire à mon projet et à mes valeurs, et donc des personnes qui seraient prêtes à s'engager non seulement sur un projet d'entreprise, mais une vraie mission sociétale. Et justement, je pense que ça commence, ça fait du bien d'avoir des personnes qui te soutiennent au jour le jour, parce que ce n'est pas facile, parfois. Mais oui, c'est savoir s'entourer d'une belle communauté qui porte finalement, qui incarne ce projet, ses valeurs. Et lorsque ça sera le cas, ça ne sera plus mon projet, ça sera un projet d'une collectivité. Et si j'arrive à faire ça, je serai la personne la plus heureuse au monde.
Ça, c'est un autre sujet, le bonheur, et seras-tu vraiment heureux? On en reparlera
Et,
dans 10
tout à
ans.
fait, tout à fait.
Je te remercie, Borna. Merci
Merci, Joanne.
beaucoup d'avoir partagé et je te souhaite de réaliser ta mission.
Merci, c'est très gentil de ta part et merci pour cette belle occasion d'échanger avec toi.
Bon, cette interview est très longue, donc je ne vais pas en rajouter. On se retrouve dès la semaine prochaine. On va continuer à explorer cette notion de singularité, de trouver sa voie. Avec Alexandre, alors comme Borna, je n'essaierai pas de prononcer son nom de famille, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Unique. Si tout se passe bien, c'est dès mercredi prochain. Je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt.